Faites vos valises, restez sur MDM.
Tous les jeudis à 17h30, la librairie Caractère Social Club à Mont-de-Marsan explore pour vous l'actualité du livre. Rencontre avec les auteurs et les lecteurs, romans, essais, recueils de nouvelles ou de poèmes, sélectionnés et présentés par vos critiques, Aurore Pourny, Anthony Clément et Romain Baxer. Tous les jeudis à 17h30, mettez-vous à la page avec Radio MDM.
Si on doit commencer par une petite leçon d'histoire, l'histoire des quatre présidents là, aux États-Unis, c'est une montagne indienne qu'ils ont volontairement spolié. Et en plus, ils ont voulu humilier en plus les Indiens en disant on met nos faces de président par-dessus.
C'est ça qui est incroyable. Alors, il y a aussi bien sûr une histoire d'or, hein, c'est-à-dire qu'il y avait de l'or dans les Black Hills. Là, on est fin du 19e, en pleine guerre indienne, aux alentours de 1870. Ces montagnes sacrées avaient été tout de même reconnues appartenant à la nation Sioux, hein, donc les Lakota, donc par traité, hein, les Indiens ont un traité qui leur dit voilà, ces montagnes-là vous sont réservées, elles sont sacrées, pas de problème. Okay. Quelques années après, pendant les guerres indiennes, on a découvert de l'or, le fameux général Custer. Custer a découvert de l'or, donc là, bon, ben, les colons sont arrivés, ils ont complètement fouillé la zone, et en plus, en effet, ils ont humilié hein, le peuple en sculptant donc, les quatre premiers présidents, donc c'est une histoire complètement incroyable. Sachant que pour les développements contemporains, en 1980, la nation Sioux a mis en procès donc, le gouvernement américain pour reconnaître quand même le traité qui avait été violé. Et donc en 1980, la Cour suprême américaine a reconnu en effet que le gouvernement américain a été fautif. Ils ont eu plusieurs centaines de millions de dollars de réparations. Les chefs des tribus ont refusé cet argent qui, maintenant, dort sur un compte en banque. Le montant s'élève à plus d'un milliard de dollars aujourd'hui, ce qui ferait à peu près 25 000 dollars par Indien Lakota, ils sont à peu près 40 000, mais ils refusent toujours cet argent. Ouais, c'est une histoire complètement incroyable, enfin complètement de spoliation qui est une des anecdotes développées dans cet ouvrage.
Mais non, mais je vous écoute, mais je veux dire, défoncer Ferrand, pulvériser Stéphane Bern, j'aurais dû mettre la petite musique de Secret d'Histoire. Merci Romain Baxer. Ça aurait été formidable. On se retrouve la semaine prochaine. Hein. Secret d'Histoire à la librairie Caractère Social Club. Parce que, vu qu'on n'a pas fait d'intro. Hein,
non, on rentre dans le vif.
On rentre dans la tente, on rentre au pied du
tipi même, du tipi. J'ai envie de dire. Oui. C'est un tipi Lakota, en effet. Depuis...
Justice indienne, c'est celle...
Voilà.
C'est histoire de vous couper la parole.
Non, mais tout à fait, c'est le livre qu'on est en train de chroniquer là actuellement, intitulé Justice indienne, écrit par David Esca Vambly Vaiden, un avocat américain issu de la nation Sioux Lakota. Hein.
Mettez-moi deux shooters, là, j'ai l'impression qu'on est au bistrot. Là.
Mais oui, mais...
On fait un after work.
On est bien.
Une petite musique lounge derrière.
Gallmeister, éditeur.
Hein, Bob Sinclair. Pardon, Gallmeister, excellente maison d'édition.
Voilà, qu'on ne présente plus. Hein, donc, un éditeur qui publie exclusivement de l'américain, de la littérature contemporaine, et qui s'intéresse donc à l'histoire indienne. Hein. Pour un petit mot tout de même d'introduction à rebours, hein, on est rentré dans le vif du sujet. Justice indienne, il ne s'agit pas que de cette histoire de Mont Rushmore, bien sûr, et de spoliation indienne. Donc, c'est un premier roman donc, écrit par cet avocat. Donc, l'action se déroule quasiment entièrement dans la réserve indienne de Rosebud, hein, dans le Dakota du Sud.
Hein, rien à voir avec Orson Welles.
Non, même si c'est...
Rosebud.
Vous avez trop de références cinématographiques pour moi.
On passe de l'histoire au cinéma, mais c'est pluriartistique, c'est pluridisciplinaire. J'adore cet endroit. Transdisciplinaire. On mutualise les énergies.
On décloisonne même. On adore le décloisonnement.
Parce qu'il y avait des trous dans la raquette.
Donc voilà, le personnage principal de ce roman, tout de même... s'appelle Virgil Wounded Horse. C'est un justicier, hein, le personnage principal donc, de ce roman, Justice indienne, est un colosse, en fait, qui est mandaté par ses compatriotes, en fait, pour faire justice à la place d'une justice qui n'existe pas. Sachez que dans les réserves indiennes, en fait, la police fédérale intervient très peu. C'est la fameuse police indienne qui gère les affaires, vous voyez. Et malheureusement, les Indiens de ces réserves demanderaient un peu plus d'intervention, peut-être, de la police fédérale pour des crimes assez graves, comme des crimes pédophile.
C'est un nettoyeur.
C'est un peu un nettoyeur, ouais, tout à fait. Alors bon, là, il va éviter quand même de mettre fin au jour des gens qu'il va molester, hein, parce que bon, sinon, là, lui, il va justement être...
Mais l'Indien scalpe, normalement, il ne moleste pas.
Oui, alors là, il moleste bien notre ami Virgile. Hein, donc, dès le premier chapitre, en fait, on rentre dans le vif du sujet et du personnage. Hein, Virgile va faire justice. En effet, un professeur de sport ferait des attouchements ou aurait commis un viol sur notamment une petite fille. Alors là, il va y avoir un tabassage en règle. Hein, dès le premier chapitre, la victime va garder assez peu de dents. Hein, je cite, « Je lui fichais le talon de ma botte dans la figure et ses dents se brisèrent comme des chips rances. Je vis des dents éparpillées sur le béton. »
Dans les chips.
On aurait dit de petites pierres tombales jaunes.
Joli descriptif.
Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, vous voyez, dans ce premier chapitre, donc on a une explosion de violence, mais en même temps, on a une explication de la compassion indienne. Alors ça, c'est très étonnant.
Quel est ce concept ?
Ce concept s'intitule le Wakantonyaka. Notez que dans Wakantonyaka, il y a Anto.
Anthony. Le prénom le plus compatissant du monde.
Voilà.
Ta gueule.
Le Wakantonyaka, c'est une des 7 valeurs Lakota, en fait. Hein, ce Wakantonyaka qui signifie, attention, tenez-vous bien, qui signifie à la fois la compassion, la générosité, la gentillesse et le pardon. Hein, voilà. Comment se manifeste...
Et on a anéanti ces tribus, on a anéanti ce peuple.
Qui était
la lumière incarnée, la preuve.
Oui, bien sûr. Alors, parmi les fameux, pour rappeler à nos auditeurs et auditrices, parmi les plus fameux des Indiens de Lakota, vous connaissez sans doute Sitting Bull, Crazy Horse également. Et d'ailleurs, Sitting Bull...
Il était assis sur son cul.
C'était assis sur le cul d'un bison.
Hein, oui.
Parce que c'est ça, un Sitting Bull.
C'est pour les jeunes.
C'est polysémique, le bull.
Bouge ton bull. Boule, par exemple, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui.
Alors, bouge ton bison, en fait, c'est ça. Donc Sitting Bull, lui-même, a un épisode fameux, en fait, où il a laissé partir un ennemi, je crois que c'était un ennemi Pawnee, parce que les Pawnee sont les grands ennemis des Lakota, parce qu'en effet, les Pawnee, eux, ont pactisé.
C'est cruel,
et surtout, les Pawnee ont pactisé, en fait, avec les Blancs. En 1800, ils ont pactisé notre...
Collabo. Avec le Pawnee est collabo.
Voilà, donc là, les Lakota, tout simplement les ont combattus, hein. Donc Sitting Bull, lors d'un épisode d'une guerre indienne contre un Lakota, en fait a réalisé ce geste du Wakantonyaka, c'est-à-dire alors qu'il était sur le point d'achever son ennemi, il l'a laissé partir.
C'est le grand pardon.
C'est le plus grand honneur, c'est la plus grande bravoure chez un guerrier qui se manifeste ainsi, c'est-à-dire on laisse partir un ennemi alors qu'on peut l'anéantir.
Va, je ne te hais point.
Voilà, c'est ça, entre la tragédie...
Je ne te dis plus.
La tragédie, là, on est dans le CID,
On n'a pas fait les planches, on n'a pas fait Corneille, parce qu'on vient de loin.
Donc, comme quoi, un polar indien peut évoquer la tragédie, tout à fait. Voilà, donc le personnage de Virgile, Wounded Horse, est planté, ce justicier, et l'intrigue qui va se dérouler ensuite va mêler son neveu Nathan, orphelin de mère, la sœur de Virgile est décédée. Et donc son jeune neveu Nathan à 14 ans va être mêlé à un trafic de drogue sur son établissement. On a retrouvé en effet des cachets de drogue dans son casier au collège.
C'est le cachet de drogue.
Cachet de drogue, voilà des produits
en fait
illégaux. Et donc c'est bien la seule raison en fait pour laquelle la police fédérale accepte d'entrer dans une réserve, c'est quand il y a vraiment un trafic de drogue, qui plus est sur un lieu d'enseignement.
C'est un lieu sacré.
Là, on peut dire l'enseignement est sacré aussi bien là chez les Blancs que chez les Indiens. La police fédérale va se mêler à cette affaire. Virgile, son oncle, va aussi s'en mêler. Il veut protéger son neveu Nathan qu'on tente de transformer en informateur, en balance, en indique. Alors ça, il n'y a rien de pire, bien évidemment, dans une réserve indienne ou dans un établissement que d'être traité d'indique. Donc, la position...
Même dans l'absolu,
ou dans la balance, quoi. Et donc, Virgile va essayer à la fois de protéger Nathan et de régler cette histoire. Voilà, ça, c'est vraiment le fil de l'intrigue qui va permettre de dérouler, en fait, dans ce roman noir, dans ce thriller, énormément d'aspects de la société indienne actuelle, qu'on ignore complètement. Là, on est en pleine zone de gris. Et donc, on va avoir beaucoup de valeurs Lakota, bien sûr, les cérémonies chamaniques indiennes encore actuellement. On va parler un peu de l'American Indian Movement, qui défend les droits civiques des Indiens. On va voir comment s'organise le conseil tribal, à chaque fois dans ces réserves, une sorte de gouvernement local, élu par les membres de la réserve. Et on va aussi évoquer notamment les Winter Counts. Je vous laisse peut-être lire Winter Counts.
Le Winter Counts.
Voilà, ce sont des comptes rendus divers. C'était d'ailleurs le titre originel de ce roman. Ça, c'est le seul bémol, le seul regret, vous voyez.
Et la maison d'édition Gallimestor a dit « Les gens ne sont pas prêts !»
Voilà.
Ces références hivernales.
Justice indienne, ça me fait un peu penser.
Sanctiogène, l'hiver, tout le froid.
Voilà, ça me fait un peu penser. Je trouve que c'est vraiment un gros ratage, parce que dans le Winter Counts, il y a vraiment une dimension un peu de conte poétique.
Parce que la justice indienne, ça fait juste Charles Bronson.
Ben voilà, pour moi, c'est vraiment d'ailleurs du même acabit que la plus grande trahison de traduction de titre, mais là, c'est en film, on en avait peut-être parlé sur vos ondes, The Deer Hunter.
Oui.
Je sais pas si vous vous rappelez, la traduction française de ce grand film de Michael Cimino, la traduction française, c'est Voyage au bout de l'enfer, qui n'est pas la chasse.
C'est la traduction littérale.
Voilà, donc ça c'est le seul petit bémol qu'on pourrait faire sur l'ouvrage, c'est-à-dire la traduction du titre. Donc Winter Counts, ce sont des comptes rendus divers où, en fait, par un symbole, l'année est répertoriée dans la mémoire Lakota. C'est-à-dire s'il y a un décès, un événement, par un petit symbole, on note cette année. Vous voyez, ils notent pas les années par des chiffres. On va également constater la place très difficile des ISK, comme ils les appellent, c'est-à-dire ce sont des métis, tout simplement, les Indiens métis.
Moi, je crois que c'était le fils de Domi.
Voilà, on va également revenir sur les relations Pawnee et Lakota, et bien sûr, comme on vous en parlait en tout début, la fameuse histoire des Black Hills, du Mont Rushmore, que les Indiens d'ailleurs appellent Hesapa. Voilà.
Comment on boucle la boucle.
Voilà, on revient au début. Donc, écoutez, vraiment, lancez-vous dans ce roman noir qui, je le précise, sur le bandeau que j'ai écrit à la librairie, c'est un polar doux. Alors bon, c'est peut-être un peu ironique, mais finalement, pas tant que ça, parce que vous voyez, on rentre pas non plus dans les noirceurs de l'âme humaine. Pour finir, juste sur ce Mont Rushmore, là, sur lequel on a commencé, l'auteur, dans Justice indienne, trouve ça bien évidemment scandaleux, que cette montagne ait été spoliée, et que les Blancs aient construit un monument sur un lieu déjà sacré. Il dit, je cite... C'est un peu comme si des Indiens construisaient un casino dans l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem.
C'est un peu dur.
Donc en tout cas, voilà, lancez-vous dans ce roman Justice indienne avec, si vous le pouvez, un livre d'histoire à côté que j'ai lu l'an dernier. J'en ai déjà parlé, il me semble, une fois sur vos ondes. C'est La contre-histoire des États-Unis d'Alexia Dunbar Ortiz. Voilà, un excellent livre d'histoire édité chez White Project par cette historienne, cette universitaire, qui revient justement sur la période 1800-1900 des guerres indiennes. C'est vraiment un excellent livre qui pourra vous permettre un peu mieux de rentrer dans cette histoire indienne. Voilà, c'est une très belle méditation sur le pouvoir, la violence et la justice. Wakantoniaka. Eh bien oui, c'est difficile parce que...
Adichat.
Non, là vraiment...
La semaine prochaine.
Le Wakantoniaka par vous.
D'accord.
Voilà, une des sept valeurs, Lakota,
oui,
le Wakantoniaka.
Le club de sport.
C'est-à-dire...
Je ne sais pas, moi, les Sioux de San Francisco ou les Apaches de Orlando. Enfin, je ne sais pas, ça serait peut-être un club. Bon, je vais aller tout réviser. Justice indienne. Par David S.K. Van Blee Weyden et c'est chez l'excellente maison d'édition Gallmeister, qui n'est pas le nom le plus sioux que je connaisse.
Ah, Oliver Gallmeister, du nom de l'éditeur, le côté narcissique des éditeurs français, on donne notre nom à la maison d'édition.
Mais un jour, il y aura une grande, grande maison Baxter, j'en suis convaincu.
Non, surtout pas.
Wakanto, Nyaka, et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
L'actualité du livre sur MDM, c'est tous les jeudis à 17h30. Retrouvez votre sélection littéraire et le programme des animations à la librairie Caractère Social Club sur la page Facebook de Radio MDM.
MDM. On n'a pas inventé la radio, on l'a juste améliorée. MDM.